le magazine des Nations Unies.
Bonjour et surtout, agréables conditions d'écoute des programmes de Radio Capi qui vous propose le magazine des Nations Unies dont voici les titres. Renforcer au niveau central les capacités des cadres des ministères du secteur de l'éducation et de la formation dans le domaine de la programmation pour permettre de passer des budgets des programmes en lieu et place des budgets des moyens. Tel est l'objectif de la troisième session de l'atelier organisé lundi par le secrétariat permanent d'appui du secteur de l'éducation SPAS en collaboration avec l'UNESCO à Kinshasa. En Ituri, 15 magistrats et officiers de police judiciaire ont été formés pendant 3 semaines, notamment sur des techniques d'investigation numérique et l'analyse criminelle. Cette formation a été organisée par la section d'appui à la justice de la MONUSCO sur demande des autorités judiciaires de la province de l'Ituri. Le porte-parole militaire de la force de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Kedani Mensa, est l'invité de cette édition du magazine des Nations Unies. Voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition du magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Cette page d'actualité commence à Kinshasa. Renforcer au niveau central des capacités des cadres des ministères du secteur de l'éducation et de la formation dans le domaine de la programmation. Cela pour permettre le passage des budgets des programmes en lieu et place des budgets des moyens. Tel est l'objectif de la troisième session de l'atelier ouvert lundi à Kinshasa, organisé par le secrétariat permanent d'appui du secteur de l'éducation SPAS en collaboration avec l'UNESCO. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du plan de travail triennal budgétisé 2024-2026 sur la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. On écoute les explications de Saïb Si, chef de section éducation de l'UNESCO en RDC. Il est au micro de Jeff Opela.
Nous avons pu dérouler donc une série de modules qui va être complétée durant les 5 prochains jours par d'autres modules complémentaires afin de pouvoir faire bénéficier aux différents ministères en charge de l'éducation d'un paquet de ressources qui permettra, favorisera le suivi, d'abord la planification budgétaire, le suivi et la gestion au niveau budgétaire. Et on le sait que la RDC est dans un processus de réforme budgétaire et ce serait bien que les différents ministères en charge de l'éducation puissent être dans le diapason, donc dans le feu de l'action. Et nous essayons de réitérer ici, en tant qu'UNESCO, l'assiduité des différents participants parce que c'est des modules sur lesquels nous avons beaucoup insister. Ça, c'est la première cohorte. Ça va permettre à la rentrée au mois de septembre de démarrer avec la deuxième cohorte.
Autre volet de l'actualité, en Ituri, 15 magistrats et officiers de police judiciaire, OPJ, ont été formés pendant 3 semaines, notamment sur les techniques d'investigation numérique et l'analyse criminelle. Cette formation a été organisée par la section d'appui à la justice de la MONUSCO sur demande des autorités judiciaires de cette province. Elle vise à renforcer les capacités de ces agents à bien conduire des enquêtes sur différents types d'abus et d'atteinte aux droits de l'homme sur les réseaux sociaux ainsi que sur la cybercriminalité. Elle leur permettra aussi de se familiariser à la loi sur le numérique. Le point avec Ezekiel Mousalia.
L'accès aux sources crédibles de l'information, la désinformation dans les contextes des conflits et des tensions sécuritaires sont des sujets développés autour d'une table entre les journalistes et les responsables de l'information publique de la MONUSCO, du droit de l'homme, ainsi que du porte-parole de l'armée. Ce chevalet de la plume ont été outillés sur le bon usage de l'information comme une arme de guerre qu'ils doivent manipuler avec prudence. Certains s'expriment.
La désinformation tue. La désinformation fait en sorte que la communauté peut s'embraser.
Pour lutter contre la désinformation, il faut beaucoup vérifier la source.
De son côté, le gouverneur de province invite ses chevaliers de la plume au respect d'éthique et de la déontologie du journalisme et surtout d'éviter le communautarisme dans le traitement de l'information. Le général Johnny Luboyankashama.
Vous, journalistes, vous ne pouvez pas être pro ou anti, non. Vous êtes pour l'information pointée. Si aujourd'hui nous avons toutes ces violences, c'est rare qu'on ait des leaders qui se lèvent, qui parlent pour l'Ituri. Souvent, les gens sont accrochés. Bon, des fois par peur, sont accrochés à leur communauté. Mais pas vous les journalistes.
La chef de l'information publique de la MONUSCO invite les journalistes à faire preuve de la patience et éviter de se fier à une seule source pendant le traitement de l'information. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Nous clôturons cette page d'actualité à Kinshasa. Validation de la feuille de route biennale de contrôle et de gestion des armes légères et petits calibres en RDC. Ce sujet était au centre d'un forum organisé mercredi 5 juin à Kinshasa par la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres CNC-ALPC avec l'appui technique de la MONUSCO au travers de son service de lutte anti-mine UNMAS. Ce rendez-vous s'inscrit dans le cadre du processus de validation du plan d'action national 2024-2028 afin de contrer le phénomène de circulation illicite des armes légères et de petits calibres en RDC. Ce projet a été validé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, représenté par son directeur de cabinet. Après validation de ce projet par le gouvernement, Landry Bisidi Chilombo, secrétaire permanent du CNC-ALPC, explique le contenu de la feuille de route qui venait d'être validé par le gouvernement. Il est au micro de Jeff Opela.
Cette feuille de route sort du plan d'action national quinquennal. Nous avons prévu des actions à mener pendant 5 ans, mais pour un bon suivi, pour une bonne évaluation, il a quand même fallu avoir une feuille de route biennale, c'est-à-dire des 2 ans, pour ressortir les priorités des priorités de toutes les actions prévues pour les 5. C'est ça le contenu de cette feuille. Donc, nous avons identifié quelques activités phares. Il y a la formation des formateurs, il y a la sensibilisation, il y a le marquage qui est notre activité principale, il y a le désarmement civil et volontaire, parce que nous savons ici, vu l'état de notre pays, vu le contexte que nous vivons actuellement, il y a pas mal de armes qui circulent irrégulièrement, soit illicitement, sur toute l'étendue de la République. Donc il nous faut quand même une campagne de sensibilisation afin que la population comprenne les dangers de détenir une arme à la maison.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le magazine des Nations Unies reçoit dans ce premier entretien Mike Limbuko, chargé de la sécurité et du système des aliments à la FAO. Il parle de quelques propositions et actions menées par cette agence onusienne pour améliorer la santé des aliments en RDC. Mike Limbuko appelle à la sécurité des denrées alimentaires pour éviter le taux de mortalité élevé des enfants ainsi que d'autres maladies évitables. Il s'entretient avec Jeff Opela.
Monsieur Mike Limbuko, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeff.
Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de la sécurité des aliments. Vous, en tant que FAO, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée?
Merci beaucoup pour votre question. En effet, aujourd'hui, le 7 juin 2024, nous célébrons pour la 6e fois la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Et pour cette 6e célébration, les thèmes retenus au niveau global par la FAO et l'OMS souligne l'importance d'être préparé aux incidents liés à la sécurité sanitaire des aliments, que ces derniers soient bénins ou graves. Parce que, au fait, au niveau global, hein, on note qu'il y a à peu près 1 600 000 personnes qui tombent malades pour avoir consommé des aliments qui sont impropres à la consommation. On a à peu près 340 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque jour pour des raisons de maladies d'origine alimentaire pourtant évitables. Et il y a à peu près 200 maladies qui sont causées par des aliments impropres à la consommation. Elles vont des simples diarrhées jusqu'au cancer. Donc, vous comprenez bien avec moi que la sûreté, la sécurité sanitaire des aliments sont des facteurs clés, hein, pour le développement agricole et pour la promotion de la sécurité alimentaire et une bonne nutrition des populations. Contribuent à lutter non seulement contre les pertes et les gaspillages alimentaires, elles sont essentielles pour le commerce de denrées alimentaires.
Alors dans ces cas, Monsieur Mike, quelles sont les propositions ou les actions menées par la FAO pour améliorer la santé des aliments en RDC?
Comme vous le savez, hein, notre mandat c'est d'appuyer les pays dans le développement agricole et la promotion de la sécurité alimentaire et une bonne nutrition des populations. Et à ce titre, la sûreté, la sécurité sanitaire des aliments sont des aspects qui nous intéressent au plus haut point, puisqu'elles sont essentielles pour le développement agricole de façon générale et pour le commerce des denrées alimentaires. Pour le cas spécifique de la RDC, on constate quand même qu'il y a une certaine culture limitée, hein, en termes de sécurité sanitaire des aliments. Et on note aussi, hein, que nos chaînes d'approvisionnement alimentaire sont peu fiables et cela limite l'essor du secteur agroalimentaire au niveau national. Et ça s'est traduit hein, concrètement par des pertes financières pour les opérateurs agricoles lorsque ces derniers ne savent pas rencontrer les exigences du marché. Dans ce sens, la FAO avait mené une réflexion avec le ministère de l'Agriculture et dont les conclusions faisaient état de l'obsolescence hein, et de la vétusté des textes juridiques actuels qui régissent ce domaine. Donc, la plupart des textes sont vraiment en déphasage avec les réalités actuelles de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des surcroît de la sécurité sanitaire des aliments. Nous avions accompagné le pays à se doter d'une alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire dans l'optique hein, de soutenir par une législation efficace les engagements pris par le pays pour lutter contre la faim. Là, on peut citer les engagements de Malabo, on peut citer les objectifs de développement durable, mais aussi hein, toutes les autres déclarations internationales et régionales que le pays a eu à ratifier. Nous restons convaincus que, de par leur mandat, les parlementaires peuvent aider à façonner les politiques et établir les cadres législatifs appropriés pour garantir l'accès à une alimentation saine et nutritive et l'allocation des ressources budgétaires nécessaires à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir une alimentation saine issue des systèmes alimentaires durables, inclusifs et résilients. Voilà un peu ce que je peux dire en quelques mots sur ce qu'ont été les propositions, les actions concrètes menées par la FAO pour faire avancer les domaines de la sûreté et la sécurité sanitaire des aliments en RDC.
La FAO a-t-elle un message à passer à la population congolaise?
Juste un seul message. Seul, je dirais, les normes et les directives d'hygiène alimentaire sauvent vraiment des vies. Voilà le message que je peux passer.
Monsieur Mike Limbuko, merci.
Merci beaucoup à vous.
Remarquez-vous, 25 artistes, musiciens, peintres et stylistes de la ville de Béni ont été sensibilisés mardi dernier à la lutte contre la désinformation. Cette sensibilisation a été organisée par la section des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO Béni. Objectif, combattre la propagation des fausses nouvelles et attirer l'attention de cette autre couche sociale sur les risques et dangers de ce phénomène. Les participants ont été invités à être des ambassadeurs de la lutte contre la désinformation à travers leurs œuvres. Des journalistes sans radio communautaire dotés de panneaux solaires par la MONUSCO ont bénéficié le week-end dernier d'une formation de renforcement des capacités à Bounia. Cette formation a porté sur l'écriture journalistique et la lutte contre la désinformation ainsi que le discours de haine. L'objectif de cette activité, qui s'inscrit dans le cadre de la transition de la mission onusienne, est de rendre plus opérationnel ce chevalier de la plume dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Les participants sont venus des territoires d'Irumu, Djougou et de Mahagi.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies reçoit comme invité le porte-parole militaire de la force de la MONUSCO. Le lieutenant-colonel Kedani Mensa nous parle du soutien de la force de la MONUSCO au FARDC dans les affrontements contre la rébellion du M23 autour de Kanyabayonga. Il revient aussi sur l'opération dénommée Changang, lancée il y a peu par la force dans la région de l'Ituri. Le lieutenant-colonel Kedani Mensa s'entretient avec Bernard Denyangui.
Lieutenant-colonel Kedani Mensa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jalis.
Commençons d'abord par les opérations qui sont menées dans le cadre des affrontements entre les M23 RDF contre les FARDC. Que pouvez-vous nous dire du soutien qu'apporte la MONUSCO effectivement dans ce cadre-là?
Les affrontements entre le M23 RDF et les forces de la coalition des FARDC ont été signalés à partir du 27 mai 2024 dans la zone nord de Kabanyanga. En réponse, la MONUSCO a multiplié ses patrouilles de domination de zones de jour comme de nuit dans les environs de Kabanyanga afin de protéger la communauté locale déplacée qui est victime de ces affrontements. En raison de ces affrontements et de la détérioration de la situation sécuritaire, la brigade d'intervention de la force fournit un soutien aux personnes déplacées à travers la sécurisation d'itinéraires humanitaires et la protection des civils vulnérables et un soutien limité aux FARDC. Le bataillon Malawit de la MONUSCO effectue régulièrement des patrouilles de domination et de reconnaissance aérienne de la zone pour réagir rapidement à tout incident fâcheux. La force de la MONUSCO est déterminée à remplir son mandat de protection des civils.
Du côté de l'Ituri, il y a une opération qui est en cours, dénommée Chang Gong, lancée depuis le 20 mai 2024. Qu'est-ce que nous pouvons en retenir?
Le 20 mai 2024, la brigade d'intervention de la MONUSCO, en coordination avec les FADC, ont lancé une opération conjointe dénommée Chang Gong. Cette opération conjointe a été lancée en réponse à la situation sécuritaire instable dans la province de l'Ituri afin de dissuader les activités des groupes armés ADF et d'empêcher tout autre groupe armé illégal la liberté de mouvement dans les zones situées entre Mbo, Masuku et Samboku. Le 24 mai 2024, une réunion avec les principaux responsables locaux a été menée au village Mamouvé dans le but de gagner la confiance de la communauté locale pendant l'opération et d'intégrer leurs préoccupations en matière de sécurité dans la planification de l'opération. Dans ce cadre, la première base d'opération mobile a commencé ses opérations le 25 mai 2024. L'opération couvre l'AS Mamouvé, Samboké, ainsi que les AS Mbo, Masuku, Kudukudu, Mandumbi. Actuellement, la force de réaction rapide kenyane a été déployée à Mamouvé et jusqu'à présent, elle a mené plusieurs patrouilles conjointes de domination de zone et des opérations ciblées avec les forces de sécurité locales ainsi qu'avec le concours des principaux responsables locaux sur l'AS Mamouvé et Samboké. Elle a pris le contrôle de l'AS Mamouvé, Malimbo, Mouloulia, Sembobo pour assurer la protection des civils et dissuader les groupes armés de toute nouvelle activité criminelle contre les civils. Le 29 mai 2024, une autre patrouille a été envoyée sur l'AS Mamouvé, Maliajama pour la protection des civils. De jour comme de nuit, la situation sécuritaire de Mamouvé et Samboké est restée sous contrôle depuis le début de l'opération. La population locale de Mamouvé et les forces de sécurité locales ont été très coopératives avec la MONUSCO dans cette opération. Avec précision et détermination, les forces conjointes ont progressé avec pour objectif de démanteler l'emprise oppressive des combattants ADF et d'assurer un environnement sûr et stable pour toutes les populations locales. Mais au-delà de cette opération, l'engagement de la MONUSCO envers la population de la province de l'Ituri demeure permanent.
Et pendant ce temps, il y a une formation pour terminer d'ailleurs, que conduit le contingent bangladais au profit des jeunes leaders. Ça se passe à Bounia. Qu'est-ce que nous pouvons savoir à ce sujet?
Oui, monsieur Jazé, le contingent bangladais de la MONUSCO a pris l'initiative de former des jeunes leaders à Bounia sur divers aspects techniques et de développement des compétences. Deux programmes de formation sont en cours, l'une pour les conducteurs de véhicules poids lourds, qui a démarré déjà du 27 mai au 14 juin 2024, et l'autre sur l'entretien et la réparation des groupes électrogènes du 27 mai au 4 juin. Les cours ont lieu de lundi, mardi et jeudi. À l'issue de ces formations, les participants seront dotés de compétences précieuses leur permettant de fournir des services essentiels à leur communauté. Des représentants du directeur de la division de la jeunesse, des dirigeants du conseil de la jeunesse de Bounia ainsi que des dirigeants des organisateurs communautaires ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Cette initiative souligne le rôle crucial de la MONUSCO en RDC, non seulement en termes de maintien de la paix et de la sécurité, mais aussi en tant qu'acteur clé dans le développement communautaire et le renforcement des capacités des jeunes dans le contexte du désengagement de la MONUSCO. Par ces actions, la MONUSCO contribue à créer un environnement meilleur et plus stable pour les populations locales.
Lieutenant-colonel Kedani Messa, merci.
Je vous remercie.
Nous sommes au Nord Kivu. Les affrontements opposant l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23 se sont poursuivis jusque lundi dernier autour de la cité de Kanyabayonga. C'est notamment sur l'axe Kilambo-Bulinzi, à l'ouest de la cité, en territoire de Rutshuru, ainsi que vers Maïsafi-Loubwe, dans le parc national de Virunga, axe Kanyabayonga-Ruindi. Le porte-parole de la MONUSCO confirme l'appui des casques bleus dans ces combats. L'objectif, selon lui, est de renforcer la protection de la communauté locale déplacée, qui est victime de ces affrontements qui viennent de durer plus d'une semaine. Le lieutenant-colonel Kedani Mensa au micro de Bernard Denyangi.
Les récents affrontements dans le territoire de Rutshuru avec l'offensive du M23 vers Kanyabayonga ont considérablement aggravé la situation sécuritaire et humanitaire. Les troupes de la force d'intervention de la brigade déployée à Kanyabayonga ont aidé les civils qui fuyaient les zones de combat. Le bataillon Malawit a escorté certaines personnes déplacées vers des abris sécurisés, a fourni des soins médicaux et a facilité le déplacement des civils de Kilambo, Mirangi et Kabanyaga vers Kirumba. En outre, ils ont effectué des patrouilles conjointes dans les environs de Kanyabayonga en coordination avec les troupes des FADC afin de renforcer la protection des civils. Cette situation sécuritaire dégradante a nécessité le déploiement d'unités supplémentaires par la force d'intervention de la brigade. Ainsi, depuis le 30 mai 2024, le bataillon de réaction rapide népalais a été redéployé dans la zone pour renforcer la base opérationnelle permanente de Kanyabayonga. Le renforcement de la présence des casques bleus dans la localité de Kanyabayonga intervient dans le cadre strict de l'accomplissement de son mandat en protégeant les populations civiles et leur porter assistance. Au cours des derniers jours, le bataillon de réaction rapide népalais et le bataillon malawite ont poursuivi l'aide aux personnes déplacées, à coordonner leurs activités opérationnelles avec les FADC et à renforcer leur position défensive.
La société civile de Bito, territoire de Rutshuru, plaide en faveur du déploiement de plus de moyens pour les FADC pour faire face à ces attaques rebelles, mais elle plaide aussi pour une assistance humanitaire d'urgence en faveur des milliers de familles qui sont récemment déplacées à la suite de ces combats.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Et dans vos agendas, c'est trois dates à retenir pour la semaine qui commence. Le 12 juin, c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. La journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme intervient le 13 juin. Et le 14 juin, c'est la journée mondiale du donneur de sang. Ainsi prend fin à cette émission à retrouver sur www.radiocapi.net. Merci de votre attention. Merci à Billy et Landry et Betou qui a assuré la coordination technique. Au micro, Babette Pongo Massimango. C'est avec un grand plaisir que je vais présenter cette émission produite, coordonnée et réalisée par Jeff Opela. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix. L'équipe du magazine des Nations Unies vous fixe un nouveau rendez-vous dimanche prochain. Portez-vous bien.